L'habitude, c'est le titre. On définit l'habitude comme la disposition qu'on acquiert par la répétition des mêmes actes. Vous vous levez à 6 heures du matin tous les jours et au bout d'un certain temps, vous constatez que vous vous réveillez à 6 heures automatiquement, même les jours de congé. Votre corps a pris l'habitude. C'est peut-être pourquoi l'habitude est souvent perçue sous sa forme négative exclusivement. Non pas comme une aide au réveil, le jour du travail, mais comme une gêne insupportable au repos du week-end. Nous voulons prendre le contre-pied ce matin, de cette habitude trop facile qu'on a parfois de dénoncer les habitudes. Nous nous situons bien évidemment dans le cadre de la vie chrétienne et nous disons au contraire que les habitudes sont une aide extraordinaire au service de notre Maître. Bien sûr, les habitudes que l'on a dans le domaine de la pensée ou de l'action sont parfois une gêne. Elles font obstacle parfois à une nécessaire adaptation. Elles deviennent aussi parfois routines, synonymes d'inertie, faisant obstacle à l'innovation et au dynamisme. Elles deviennent même parfois des manies. Et leur seul avantage est de faire rire les autres. Certes, l'habitude a ses travers, ses dérèglements, ses excès. Mais comme toute bonne chose, et l'habitude est une bonne chose, elle est un excellent support à la vie chrétienne. Elle est une aide extraordinaire à la fidélité. Si elle manque d'originalité parfois, si elle n'est pas un chemin d'aventure, du moins, vous aide-t-elle à durer? Et durer est bien l'exigence de toute fidélité. Que pensez-vous de votre cœur et de son habitude de battre, de battre, de battre? Le mien fait quelques chamades ces derniers temps, j'ai pas été ravi. Nous citerons plusieurs fois dans cette étude l'exemple du culte, mais ce n'est pas vraiment pour traiter du culte, simplement pour avoir ici l'exemple peut-être d'une fidélité simple au Seigneur qui nous concerne tous, mais qu'il convient d'élargir à toutes les fidélités auxquelles le Seigneur nous convie. Nous exposerons notre propos à l'aide de trois expressions significatives, simples, qui sont des expressions courantes. Prendre l'habitude. Les bonnes habitudes, il faut les prendre. Cela implique une volonté, cela exige un apprentissage. Avoir l'habitude. Oh, avoir l'habitude. L'habitude est acquise. On profite de ses avantages. Nous dirons lesquels. Et puis enfin, donner l'habitude. Puisqu'il s'agit de bonnes habitudes, il faut les inculquer. Donner l'habitude est un principe d'éducation. Prendre l'habitude. C'est sur le sens actif ou passif de ce verbe que se distingue bien souvent la bonne de la mauvaise habitude. Les mauvaises habitudes, elles viennent d'elles-mêmes. Laissez-vous faire. Ce sera sans peine, sans effort, sans difficulté. Par contre, si vous voulez vous en défaire, alors vont commencer les problèmes. Vous allez vous apercevoir que vous êtes pris. Pris au sens du prisonnier. Les mauvaises habitudes, elles vous prennent. Les bonnes habitudes, il faut les prendre. Prendre l'habitude d'une fidélité exige un choix, une détermination, des efforts soutenus d'ailleurs, c'est-à-dire maintenus dans le temps. La fidélité dure forcément, ou alors ce n'est pas de la fidélité. Ce qui fait d'une obéissance isolée. Bon, vous venez au culte une fois l'an à Noël. Ce qui fait d'une obéissance isolée une fidélité, c'est la répétition dans le temps du même acte d'obéissance, c'est la régularité, c'est la constance avec laquelle vous le faites. L'habitude, c'est ce que dans bien des domaines, on désigne par la pratique. La pratique, c'est-à-dire l'accomplissement répété des années durant, des actes du métier, qui font passer l'intéressé du stade de l'amateur, de l'élève, de l'apprenti, au stade du professionnel. C'est toujours en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a pas d'autre possibilité que les répétitions des mêmes gestes, de la même démarche, des mêmes efforts. Même le sportif ou l'artiste dont on dit qu'il joue ne peut faire l'économie de l'entraînement. Apprentissage, entraînement définissent donc la période où l'on prend des habitudes. C'est la période difficile. On s'oblige à faire, à refaire. La notion de devoir domine. Il y a une manière, il y a une méthode à respecter pour atteindre le résultat voulu. Il faut s'y soumettre. Pas de pratique, pas d'entraînement sans discipline, sans effort auquel on s'astreint, et ceci sans renoncement à autre chose. Un copain de jeunesse avec qui nous nous rencontrions à Lyon pour des réunions de jeunes avait coutume de dire: mon habitude est de ne pas en avoir. Cette option a un côté attrayant, surtout pour les jeunes, à ce moment de la vie où on commence à exercer ses choix personnels, où on se positionne forcément par rapport à ce qu'on a vu pratiquer dans la famille ou dans l'église. Mais rejeter le principe même de l'habitude, comme si toute habitude supposait une insupportable perte de liberté, risque bien de cacher une motivation terriblement dangereuse. Le rejet du principe même de la fidélité. Plus aucune habitude, parce que plus aucune fidélité. Là où il y a fidélité, il y a forcément habitude, il y a forcément répétition du même service, du même engagement, du même attachement, des années durant, et bien souvent la vie. Durand, puisqu'il s'agit de fidélité au Seigneur. Avoir l'habitude et tout devient plus simple. Pour en avoir, il faut en avoir pris. Vous en prenez, vous en avez. Nous voici donc maintenant au deuxième stade, celui où l'habitude est acquise. Bien sûr, il y a forcément des domaines où on est toujours encore en apprentissage. Toujours des domaines où on a des difficultés, un peu comme l'élève débutant. Dans d'autres domaines où l'habitude est prise, cela a parfois demandé peu de peine. Et puis, cela a parfois aussi demandé beaucoup d'efforts. Mais on y est arrivé. C'est bien d'avoir des habitudes. C'est bien de faire l'effort de les prendre parce qu'il y a des avantages à en tirer. C'est ce que nous disons maintenant. En évoquant quel bienfait cela apporte d'avoir de bonnes habitudes et donc quels encouragements il y a à faire les efforts nécessaires pour les prendre. Vous vous souvenez quand vous avez appris à conduire? Moniteur vous dit, prochain carrefour, vous tournez à droite. Alors, ça commence à tourner dans votre tête. Voyons, pour tourner, il faut d'abord ralentir. Pour ralentir, il faut freiner. Pour freiner, il faut lever le pied droit placé sur la pédale de droite. Pour le porter sur la pédale centrale, appuyer, mettre aussi le clignotant du bon côté. Maintenant que l'habitude est prise, vous pensez à tout cela? Bien sûr que non. Vous avez acquis par l'exercice, par l'habitude, les automatismes de la conduite. Voilà le premier fruit de l'habitude, c'est la facilité, c'est l'aisance, la rapidité. Du coup, on se fatigue moins à le faire, bien sûr, et l'attention portée aux gestes à faire peut alors se porter plus utilement sur autre chose, comme observer la circulation. Quand l'habitude est au service de la fidélité à Dieu, elle rend cette fidélité facile. On accomplit alors plus aisément le service que le Seigneur nous demande quand on l'accomplit de façon régulière, constante. Quand on a pris l'habitude d'obéir, même les enfants le savent, on obéit plus facilement. Plus facilement, parce que la chose que l'on fait devient par l'exercice une chose naturelle. C'est bien ce que dit l'adage, l'habitude est une seconde nature. Quand on fait quelque chose tout naturellement, comme si on l'avait toujours fait, je dirais même comme si on avait été fait pour ça. Parce qu'on a bien été fait pour ça, servir le Seigneur et obéir au Seigneur. Il est certain alors qu'on le fait sans peine. On nous fait croire trop souvent que l'habitude serait un handicap, alors que parce que à ce stade, on fait la chose sans réfléchir. On l'a faite, on l'a bien faite, on n'a même pas conscience de l'avoir faite. Et c'est comme ça qu'on conduit, non ? On a fait toutes les manœuvres qu'il fallait, et pendant ce temps, on a surveillé la route, discuté avec son voisin, téléphoné, non. Mais c'est précisément ça, savoir conduire. Je me vois bien arriver ici un dimanche matin. Un reporter me tend le micro, ça c'est pas courant. J'imagine. Monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes venu ? Ma première réponse serait de lui dire, un peu surpris, ben, bonne question, mais voyez-vous, je ne me suis même pas posé cette question. Je ne me suis même pas rendu compte vraiment de tout ce que j'ai fait pour arriver là. Je viens par habitude, c'est dimanche, non ? C'est machinal, c'est automatique, naturel, instinctif. Ben oui, vous voyez, je suis là. Mais je me dis que c'est formidable, ça. Parce que vous accomplissez une fidélité pour le Seigneur, et il en est bien d'autres, évidemment. Et voilà que vous ne souffrez plus, que vous n'êtes pas, même pas conscient des efforts que cela vous demande. La force de l'habitude, dit-on. Eh bien oui, ce n'est pas une faiblesse l'habitude, c'est une force. C'est quelque chose qui vous pousse à accomplir ce que vous devez accomplir. Ça va encore plus loin, à vrai dire. Parce que l'habitude, elle crée le besoin. Ceux qui courent chaque jour à heure précise, alors ce n'est pas mon expérience, ceux qui courent chaque jour à heure précise savent que chaque jour, à ce moment-là, leur prend l'envie, et non seulement l'envie, mais le besoin de courir. Un ami qui pratique cet exercice m'a même expliqué qu'au bout d'un certain temps d'entraînement, et sous l'effet de je ne sais quelle hormone, il lui arrive de ressentir un effet de bien-être qui lui donne l'impression qu'il pourrait continuer à courir sans jamais s'arrêter. Vient ainsi le moment où, par les efforts répétés dans la régularité, la persévérance, le moment où notre service pour le Seigneur devient un facteur de bien-être, un facteur d'équilibre dans la vie. Un moment où celui qui sert avec un bonheur parfait, où celui qui vient au culte vient sans peine, parce que ce sera forcément un meilleur moment. Où celui qui donne, donne sans se sentir nullement privé de ce qu'il donne. Où le besoin créé par l'habitude amène cet extraordinaire retournement. Non seulement vous ne souffrez plus de la fidélité que vous vous êtes imposée, mais vous souffrez de ne pas l'accomplir le jour où un facteur extérieur vous en empêche. Prendre l'habitude, l'impératif de toute fidélité. Mais l'habitude prise, alors que de facilité à la fidélité. Et enfin, en un mot, donner l'habitude. Donner, parce que c'est un cadeau à faire, en particulier par les parents à l'intention de leurs jeunes enfants. Entraînez-les dans vos habitudes de fidélité. Ce sera bien sûr exiger d'eux des efforts, mais ce sera par les habitudes acquises, comme celle de venir au culte par exemple, leur préparer une fidélité plus facile. Conclusion. J'entendais sur Radio Chrétienne de France quelqu'un dire qu'avec Dieu, il fallait un jour commencer par lui dire un grand oui. Il suffirait ensuite de petits oui lorsqu'il s'agira de faire ceci ou cela qu'il nous demande. Ainsi, je pense, pour chaque fidélité, dire un grand oui, c'est-à-dire un jour s'engager. Il suffit ensuite, au rythme où l'exige ce service, de dire un petit oui simple qui coule de source, parce qu'il y a eu, au départ, un véritable engagement. Si je viens au culte sans réfléchir, c'est pas parce que je ne réfléchis pas, mais parce que la décision est arrêtée depuis si longtemps de façon définitive et je ne vais pas y revenir toutes les semaines. Nous sommes vaincus. Si le samedi soir ou le dimanche matin, nous nous demandons si nous allons venir au culte ou non. Et ainsi, pour tout ce que le Seigneur nous demande, nous demanderions-nous sans cesse si nous allons le faire ou ne pas le faire, comme si l'infidélité était une option recevable. Pour ouvrir la porte à une fidélité qui, par l'habitude, deviendra forcément facile et heureuse, il faut toujours commencer par le début. Dire à Dieu un grand oui.